affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Parmi les mots les plus utilisés aujourd'hui figure celui de crise. À l'heure où nous enregistrons notre émission, les médias et les conversations privées sont ainsi saturés par la crise du coronavirus. Une crise sanitaire dont nous redoutons qu'elle dégénère en une crise économique, mais qui plus profondément rejoint des discours sur d'autres crises. Crise climatique, crise environnementale, crise politique. Au final, ce qui se manifeste en Occident, du moins, c'est probablement une gigantesque crise de confiance, une multitude de petites crises exprimant une crise plus profonde, une crise spirituelle ou une crise existentielle. Et si loin d'être, comme on le croit trop souvent, des accidents, ces crises étaient plutôt consubstantielles à la modernité. Et si la modernité elle-même était une crise. Et si pour en sortir, il fallait non pas retourner à l'essence du projet moderne, mais revenir au contraire aux vertus qui lui préexistaient. C'est en quelque sorte la thèse provocatrice, donc intéressante, développée par Rémi Bragg dans un ouvrage au titre explicite emprunté à Chesterton, « Des vérités devenues folles », publié tout récemment aux éditions Salvator. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Rémi Bragg pour évoquer cet ouvrage et cette thèse et bien d'autres, cette auscultation des mots modernes, de ces vérités devenues folles. Monsieur, merci d'être parmi nous. Je précise que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, que votre spécialité c'est la philosophie et que vous avez étendu cette spécialité aux philosophies médiévales, notamment arabes et juives, mais que vous êtes aussi un spécialiste de la philosophie antique.
Oui, enfin, j'ai été, comme dans un sketch célèbre.
Et que ce sont pour vous autant d'outils pour interroger et questionner, comme on dit aujourd'hui, notre époque, ce que vous faites dans cet ouvrage, des vérités devenues folles. Ma première question, ces vérités devenues folles, quelles sont-elles? Et ensuite, on verra si l'on peut en guérir.
Ces vérités devenues folles, ça n'est rien d'autre finalement qu'un certain nombre de notions tout à fait fondamentales pour notre civilisation. Je pense à la notion de liberté, à la notion de nature, à la notion de culture. Bon, je ne sais plus exactement combien j'en ai traité dans ce petit livre, dont l'édition originale américaine, puisque c'était à l'origine des conférences que j'ai données du mauvais côté de l'Atlantique, donc dans l'unique langue que l'on comprend là-bas. Sur la couverture, ils ont représenté 9 pilules. Oui, évidemment, puisqu'il y a 9 chapitres, j'essaye de traiter 9 affections, 9 maladies de notre culture contemporaine. Et vous avez fait allusion à ma spécialité philosophique de départ, enfin, en tout cas ma spécialité en tant qu'historien de la philosophie. Elle a l'avantage, c'est donc aussi bien la philosophie antique que la philosophie médiévale, mais pas tellement la philosophie de nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais les Romains, ou plutôt les Latins, c'est la philosophie qui s'est développée dans le monde islamique et dans les communautés juives, ce qui permet donc une double prise de distance, si je puis dire, d'abord chronologique, puisque lorsque l'on remonte aussi loin que Platon, Aristote, on fait un saut de... disons deux millénaires et demi vers l'arrière. Et puis ça permet aussi de prendre une certaine distance géographique, si je puis dire, de ne pas rester le nez dans le guidon occidental, mais aller voir un petit peu ce qui se fait chez les voisins. Tout cela n'ayant pas pour but de faire le tour du propriétaire dans le jardin du passé, mais de comprendre un petit peu mieux en quoi nous nous distinguons, pas nécessairement au sens positif, mélioratif du terme, mais au sens simplement où nous sommes différents des autres solutions que d'autres cultures ont proposées. Et donc, cela nous permet de prendre conscience du fait que les solutions que nous avons adoptées, nous, ne sont peut-être pas les seules possibles. En tout cas, dans l'histoire, elles n'ont pas été les seules réelles. Alors, ces notions de base, il me semble qu'elles peuvent devenir folles au sens où une roue tourne fou, c'est-à-dire a perdu le contact avec ce qui lui permettait de propulser le véhicule dont elle est la roue. Hein, elle a perdu son moyeu, si je puis dire, et puis bon, elle tourne donc toute seule, sans rien entraîner, et surtout sans rien faire avancer. Alors j'essaye de m'inspirer, disons, de Chesterton, qui a lancé une formule que tout le monde cite, parfois d'ailleurs en la déformant. La formule originelle, c'est « Le monde moderne est rempli de vertus chrétiennes devenues folles ». Et je commence mon livre par nuancer déjà cette affirmation en disant que des vertus chrétiennes, je ne sais pas trop ce que c'est, il y a des vertus, et il y a une interprétation chrétienne comme il y a une interprétation islamique ou bouddhiste ou laïque, ou comme on voudra, de ces vertus. Et puis, dans d'autres textes, Chesterton élargit la perspective et parle, alors là, justement, de vérité, enfin de points d'appui pour la culture, qui aurait été solidement ancré dans le Moyen-Âge, lui-même se sachant et se voulant héritier de ce qu'il y avait de meilleur dans l'Antiquité. Et il a fait remarquer qu'une fois que ces notions ont perdu leur ancrage originel, eh bien, bon, elles font à peu près n'importe quoi.
Alors peut-être peut-on citer le texte de Chesterton dans lequel il explicite cette idée. Je vais en faire une brève lecture parce qu'elle éclaire la démarche qui est la vôtre. Donc Chesterton écrivait « Le monde moderne ne peut pas faire démarrer des choses nouvelles qu'il serait susceptible de porter très loin dans l'avenir. Au contraire, il s'empare de vieilles choses qu'il est absolument incapable de prolonger. Voici les deux traits marquants de nos idéaux moraux modernes. Tout d'abord, ils sont empruntés ou arrachés des mains de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Ensuite, ils se fanent très vite dans les mains des modernes. » Alors, il n'y a pas pire acte d'accusation contre la modernité, puisque précisément la modernité prétendait inventer du neuf et se fonder sur l'avenir et rompre avec le passé. Là, on explique qu'elle a en quelque sorte pillé le passé pour ensuite dilapider ce dont elle s'est emparée. C'est un retournement étonnant.
Ah, c'est effectivement assez raide. Chesterton avait le goût de la provocation, ça c'est absolument ça ne fait aucun doute, et je partage aussi un peu ce goût de passer pour un affreux jojo, enfin un gentil affreux jojo bien entendu, un affreux jojo qui ne se fait pas sauter avec une ceinture d'explosifs, mais qui essaye de montrer que nos prétendues évidences n'en sont guère. Alors, je ne sais pas, prenons, si vous voulez, l'exemple de la notion de nature. Hein, notion de nature sur laquelle j'ai un chapitre, si je me souviens bien, parce que ce bouquin, sa version originale est déjà assez ancienne, et je ne me souviens peut-être pas très très clairement de son contenu. Bon, cette notion de nature, eh bien, actuellement, elle se réduit à deux dimensions qui peuvent sembler contradictoires. Enfin, d'une part, nous comprenons la nature comme quelque chose de brut, pour ne pas dire de brutal, qu'il s'agira de contrôler, qu'il s'agira éventuellement d'exploiter. On la considérera comme un, une sorte de carrière ou une sorte de mine ou une réserve d'énergie éventuellement. Mais en aucun cas on acceptera de devoir se plier aux conditions très élémentaires qui permettent à cette nature de déployer tous ses effets. Et d'un autre côté, nous avons poussé le contrôle justement de cette nature tellement loin que nous la considérons, c'est l'autre aspect de la médaille, comme une sorte de jardin dans lequel nous pouvons nous promener. Si vous voulez, il y a la nature de la semaine, la nature des jours de travail, alors qui est effectivement ce dont il faut capter les forces, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il faut contrôler, ce qu'il faut exploiter. Et puis la nature du dimanche, qui est le parc naturel dans lequel nous nous promenons. Hein, j'ai toujours beaucoup ri quand je relisais dans un Astérix ce que dit Jules César, la forêt sera rasée pour faire place à un parc naturel. Eh bien, une bonne partie de notre attitude par rapport à la nature est quelque chose de ce genre. Alors que, auparavant, et spécialement alors justement au Moyen-Âge, qui n'était nullement tenté de diviniser la nature, ni nullement tenté de l'adorer, d'en faire une idole, il y avait une sorte de respect pour la nature. Alors, évidemment, à l'époque, les gens n'avaient pas les moyens techniques de la réduire à cuia, comme nous le faisons maintenant. Enfin, ils étaient obligés, d'une certaine manière, ils faisaient jusqu'à un certain point de nécessité vertu. Enfin, ils transformaient leur impuissance devant les phénomènes naturels en une sorte d'obéissance dont ils faisaient semblant qu'elle était voulue. En tout cas, je suis très frappé, je cite d'ailleurs ces passages dans le chapitre en question, où des penseurs du Moyen-Âge appartenant souvent à ce que l'on a appelé l'école de Chartres, hein, même si Alain de Lille, comme son nom l'indique, bon, n'était pas tellement chartrain, mais avait une pensée qui allait un petit peu dans le même sens, je suis très frappé par la manière dont ces gens-là parlaient de la nature, à savoir comme du vicaire de Dieu, hein, une sorte de lieutenant du Créateur, donc d'un agent positif qui produisait toutes les merveilles que nous admirons autour de nous, mais sans pour autant être une instance dernière, sans pour autant se substituer au Créateur. Sans pour autant verser dans ce culte de la nature, pour lequel Rousseau est une étiquette facile, même si sa pensée était infiniment plus nuancée que ce que l'on considère maintenant comme rousseauisme. Donc vous voyez, en ce qui concerne la notion de nature, il me semble que c'est le Moyen-Âge qui a trouvé, sans peut-être le chercher, il l'avait reçu en partie, une notion équilibrée de la nature, hein. Une nature qui ne soit ni une déesse, ni la déesse Gaïa dont nous parlent certains adeptes de l'écologie profonde, qui recyclent ainsi le nom grec de la divinité tellurique, de la divinité de la terre, ni non plus un simple ensemble de matière et d'énergie, les deux étant d'ailleurs la même chose, que nous pourrions utiliser comme ça nous chante.
Et vous dites qu'il n'y a plus aujourd'hui de logos de la nature, vous voulez dire par là, il n'y a plus de récit, il n'y a plus de capacité à l'appréhender dans son ensemble, lui donner un sens.
Oui, je me suis permis le pédantisme d'utiliser le mot grec logos, parce qu'il est d'une ambiguïté intéressante. Enfin, c'est pas seulement la raison, comme on pense toujours, mais c'est d'abord le langage, le fait de parler, tout simplement. C'est aussi le rapport qui existe entre les choses, dans le vocabulaire mathématique, par exemple. C'est aussi le rapport que l'on fait, que l'on écrit sur quelque chose. Enfin, c'est le compte que l'on rend. Lorsqu'on doit rendre des comptes de sa gestion, des choses comme ça, c'est toujours le gosse. Alors ce qui m'intéresse, c'est que de montrer que la nature, d'une certaine manière, a un message pour nous, enfin, qu'elle n'est pas muette, qu'elle parle, avec évidemment toute la profondeur de cette image, puisque bon, elle est silencieuse effectivement, mais enfin elle pourrait peut-être nous apprendre des choses si on voulait bien l'écouter. Alors, par exemple, la manière de composer avec elle, la manière de vivre, non seulement de vivre d'elle en l'exploitant, mais de vivre en elle et avec elle.
Alors, en quoi cette attitude se différencie-t-elle de l'attitude scientifique, avec quand même pour objet le monde matériel créé, notamment celui de la nature? Le discours scientifique s'est attaché à la déchiffrer. Où se trouve la nuance entre ces deux attitudes? La nuance ou la différence, même?
Le discours scientifique est parfaitement juste, parfaitement à sa place, là où il tente une description de ce que l'on appelle les lois de la nature, enfin terme bon qu'il faudrait interroger lui-même, mais la science donne une description tout à fait rigoureuse, nous donne des lois, enfin, formule des lois, elle les formule dans le langage le plus rigoureux qui soit, qui est celui des mathématiques, différentes sortes de mathématiques, hein, suivant le genre de phénomène. On n'applique pas les mêmes mathématiques à la physique du minéral, enfin, des corps inanimés, et au vivant. Enfin, bon, mais on arrive à trouver des mathématiques, et des mathématiques très puissantes, à tous ces niveaux. Ce que la science ne dit pas, c'est cette question toute bête du pourquoi. Alors la science n'a pas à répondre à la question, par exemple, pourquoi les corps graves, enfin lourds, tombent-ils ? Elle se contente de dire, bon, ben voilà, il y a la distance, il y a le carré d'Issel, il y a des quantités de choses qui permettent d'écrire une loi qui va nous permettre de savoir, bon, très précisément, à quelle vitesse un corps d'un tel poids tombera de telle hauteur, enfin, quelle vitesse il aura lorsqu'il aura atteint le sol, etc. Bien. Mais la question du pourquoi, nous ne pouvons pas y échapper, parce que ce que nous appelons comprendre, nous autres êtres humains, c'est toujours comprendre l'intention qu'il y a derrière une action. Si je vois quelqu'un mettre une lettre à la poste, je comprends ce que cette personne fait, parce que je devine son intention. Bon, la personne qui met la lettre à la poste a l'intention que les nouvelles qu'elle donne de sa famille, ou je ne sais pas, le chèque qu'elle envoie, ou n'importe quoi, parviennent à son destinataire. C'est tout simple, c'est tout bête. Bon, mais c'est ça, comprendre. Et la science nous permet on peut peut-être employer le verbe expliquer, elle nous permet d'expliquer les phénomènes, mais elle ne nous permet pas de les comprendre. Elle renonce, d'une certaine manière, à les comprendre. Et ça, c'est une vieille histoire, puisque c'est dès le début du XVIIe siècle que quelqu'un comme Francis Bacon, le chancelier d'Angleterre, qui était philosophe amateur et savant, encore plus amateur d'ailleurs, c'est Bacon qui a fait remarquer qu'on n'avait pas besoin. Alors, on n'a pas besoin quand on fait de la science, entendons-nous bien, on n'a pas besoin de faire appel aux causes finales. On n'a pas besoin de se demander pourquoi les choses. Et effectivement, il a tout à fait raison. L'ennui, c'est que notre vie la plus quotidienne, la plus concrète, la plus terre-à-terre, et la vie de tout le monde, pas seulement la vie des savants dans leur laboratoire, mais aussi d'ailleurs la vie du savant dès qu'il quitte son laboratoire, est régie de part en part par cette recherche de la compréhension. Pourquoi mes enfants font leur crise d'adolescence, pourquoi tant de foin autour du coronavirus, pourquoi voter pour ce candidat aux élections municipales plutôt que pour un autre, etc. Enfin, nous ne venons jamais à bout de nous interroger, de nous demander pourquoi, dans quel but, dans quelle intention.
Ça, c'est la question qui vient spontanément aux enfants dès le plus jeune âge. Pourquoi ?
Quiconque a eu le bonheur d'avoir des enfants le sait, en fait l'expérience parfois cuisante. Parce que dans la plupart des cas, on ne peut pas répondre, justement. Ou alors on dit, tu comprendras quand tu seras plus grand. Enfin, on a recours à toutes sortes d'échappatoires. Mais là, il y a vraiment une question à laquelle nous ne pouvons pas échapper, hein, quel que soit notre âge, enfant, adulte, parent ou sans enfant, ou grand-parent, comme j'ai le bonheur de l'être. Alors, je souhaiterais que, au moins, on reprenne conscience de, la nécessité de se poser ce genre de questions et de tenter d'y répondre.
Vous ne pensez pas que cette question est là, lancinante ? Elle est là, au fond.
Il est difficile de se passer d'une question comme ça. Sans cesser d'être un être humain, parce que je pense pas que les robots se posent des questions sur l'intention de leur pratique, puisque ils sont programmés pour agir d'une certaine façon. Alors la question du pourquoi, la question de la compréhension, c'est celle qui fait notre humanité. Et alors si j'ose dire l'ennui de la science moderne, qui, alors je le répète, dans son domaine propre est irréprochable, c'est qu'elle favorise d'une certaine manière une attitude, un sentiment d'étrangeté chez l'homme, puisque nous nous trouvons avec nos questions de sens, question demandant à quoi ça sert, quel est le but, comment comprendre tout ça, nous nous trouvons isolés à l'intérieur d'un univers qui est l'univers que décrivent les sciences de la nature et dans lequel ces questions-là non seulement ne se posent pas, mais n'ont pas à être posées. Donc nous nous sentons un petit peu étrangers dans ce monde. Et je l'écris peut-être d'ailleurs dans ce livre, comme je dis, je ne relis pas.
Je vous dirai, moi j'ai lu.
Oui, c'est gentil. Je ne l'ai pas lu, je l'ai simplement écrit. Et il est rare que je me relise, parce que je trouve ça beaucoup moins intéressant que le livre que je suis en train d'écrire au moment présent. Qu'est-ce que je voulais dire que
nous étions étrangers au monde.
Oui, je crois avoir dit que c'était une attitude que l'on rencontrait chez ce groupement un peu hétéroclite d'écoles et de tendances que l'on appelait la gnose vers le troisième siècle de notre ère. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, les philosophes, même lorsqu'ils n'appartenaient à aucune de ces trois religions, ont eu à combattre cette sorte de tentation gnostique dont certains philosophes ont d'ailleurs pensé qu'elle connaissait avec les temps modernes une sorte de, comme on dit en français, « comeback ». Hein, à savoir cette idée que finalement nous sommes des étrangers tombés d'un autre monde, dans cet univers matériel, et que nous avons au plus vite à essayer de nous en évader.
Oui, alors si je ne me trompe pas, néanmoins, ce serait comme une sorte de gnose renversée aujourd'hui alors, parce que si je ne me trompe pas, dans la gnose, c'est le monde qui est une chute et qui est mauvais. Il faut s'en échapper pour retrouver quelque chose de supérieur à ce monde matériel, alors que le discours commun aujourd'hui serait plutôt que le monde est bon, mais que l'homme est mauvais, l'a ruiné, l'a ravagé par sa cupidité, sa méchanceté, et que tant et si bien que pour que le monde redevienne meilleur et retrouve son équilibre, c'est carrément l'homme qui devrait s'effacer.
Oui, alors ça c'est aussi une tentation que j'examine. Je ne sais pas si j'ai été capable de l'exorciser, mais je fais remarquer qu'elle fait assez bon ménage finalement avec une haine de cet aspect de la nature qui nous est le plus proche, à savoir notre propre corps. Hein, je suis frappé dans la mentalité contemporaine par comment dire, une sorte de passion pour le corps. Hein, pensez à tout ce que l'on met maintenant sous le terme de wellness. Bien se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans son corps. Alors évidemment, c'est pour employer un autre mot anglais qui va d'ailleurs rimer, c'est un business absolument fantastique, mais cela témoigne, c'est une sorte de symptôme, si vous voulez, une sorte d'attitude assez paradoxale, parce que d'une part, alors nous avons l'impression d'aimer notre corps, mais nous en venons à éprouver une sorte de dégoût pour lui, là où, eh bien justement, il manifeste quelque chose comme un contrôle que la nature exercerait sur nous, dans ses besoins, bon, qui, dans nos civilisations industrielles, sont quand même assez largement satisfait. Bon, bien entendu, rien n'est parfait, d'accord, j'entends votre objection silencieuse, mais disons qu'en gros, notre estomac, l'estomac de nos concitoyens est mieux rempli que ça n'était le cas il y a quelques siècles, sous nos climats, j'entends, hein, et lorsque il n'y a pas de guerre ou de choses de ce genre-là. Mais d'un autre côté, même de ce même côté, nous n'aimons pas tellement qu'on nous rappelle aux besoins qu'a notre corps, parce que ces besoins, nous ne pouvons pas les contrôler, nous pouvons les satisfaire, enfin, nous ne pouvons pas les supprimer. Pensez au rythme de notre corps, pensez à sa fonction, à son destin, si je puis dire, qui est de vieillir. Et bon, ben voilà, de faire valoir son droit à la retraite définitive au bout d'un certain temps, hein, dont je suis certainement plus rapproché que vous, terme dont je suis plus rapproché que vous. Eh bien, tout cela, nous préférons plutôt le passer sous silence, regarder cette espèce d'omerta sur la mort, regarder ce dégoût pour des modes de reproduction, puisque comme espèce vivante, nous ne pouvons survivre en tant qu'espèce que si nous nous reproduisons. Regardez le dégoût pour tout ce dans quoi nous serions obligés de nous plier à des nécessités que j'ose à peine appeler naturelles, parce que le mot est presque devenu, ou biologique maintenant, biologique qui est devenu chez certains presque une insulte. Hein, quand on dit le parent biologique, bon, c'est on le met vraiment en dessous de tout. Je suis frappé par exemple de la façon dont un certain libertinage, enfin ce que l'on appelle un libertinage, mot d'ailleurs magnifique, puisque il signifie que vous avez été esclave et que vous êtes maintenant fier d'une liberté que vous croyez avoir recouvrée. Enfin bon, laissons cela. Un certain libertinage s'accommode très bien d'une perception du monde qui ressemble étrangement à celle des cathares. Hein, je rappelle que les cathares de notre Moyen-Âge occitan, dans la région de Toulouse et des coins comme ça, qui ont été objet de la fameuse croisade des Albigeois, qui n'est certainement pas une des pages les plus glorieuses de l'histoire de France, mais enfin bon, c'est une autre question. Ces braves gens toléraient parfaitement une grande promiscuité sexuelle, mais pourvu que cela ne mène pas à engendrer de nouveaux petits êtres qui seraient donc de ce fait condamnés à tomber
dans un monde déchu,
dans un monde sale, dans un monde obscur, enfin bon, dans cette sorte de cauchemar que se représentaient les cathares, ou dans le cinéma qu'il faisait. Il y a chez Plotin qui critiquait déjà les gnostiques dans le 9e traité de la 2e Énéade cette expression. Il dit ces gens-là, évidemment Plotin ne connaissait pas tellement le cinéma, hein, il n'était pas cinéphile, mais il parle de la tragodia, de la tragédie que ces gens font. Moi, je traduis, ces gens se font du cinéma, hein, comme on dit maintenant, c'est-à-dire, en l'occurrence, un film d'horreur.
Je crois avoir compris ce que vous nous disiez, c'est-à-dire qu'au fond, plutôt qu'une harmonie ou un équilibre, nous nous trouvons aujourd'hui, mais aussi en d'autres périodes historiques, comme... du temps des fameux cathares occitans, dans un monde où les contraires ne sont plus conciliés sur un point d'harmonie, mais en tension permanente ou en opposition permanente, jusqu'à devenir fou, justement. C'est ça ?
Oui.
C'est-à-dire que c'est difficile de caractériser les névroses ou les dérives contemporaines.
Ah, oui, là,
parce que de fait, tantôt, on peut dire, OK, libertinage, mais dans un même temps, effectivement, on voit un refus terrible jusqu'à la sexualité. L'actualité la plus récente le démontre. Les aspects sombres de la sexualité ou non-iréniques sont parfaitement rejetés et suscitent un dégoût qui est assez sidérant.
D'autant
à des gens nés dans les années 70.
Oui, précisément, d'autant plus sidérant que moi qui suis né un peu avant quand même, en 47 très précisément, et donc j'étais, j'avais une vingtaine d'années dans les années 70, ce retournement est assez sidérant. Enfin, lorsque l'on exhume les déclarations de certains personnages bien placés encore actuellement des années 70, eh bien, on est parfois pris à sourire quand voit le contraste avec ce qui se dit maintenant.
Oui, mais c'est présenté comme un retour de balancier. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une idée à creuser. Dans quelle mesure ce n'est pas finalement un même mouvement, ça a été esquissé au début de votre présentation, qui se poursuit sous une autre forme. Est-ce que finalement, c'est l'idée centrale, la vertu la plus devenue folle centrale, n'est pas celle d'émancipation? Et cette émancipation, on a besoin toujours de s'émanciper d'autre chose.
Oui, alors c'est intéressant, justement. Justement, cette idée d'émancipation, c'est-à-dire de quitter la sujétion de ses maîtres. Là, je cite Descartes, qui, au début du discours de la méthode, dit justement « Dès que j'ai pu échapper à la suggestion de mes maîtres, je me suis mis à parcourir le monde, à en lire le grand livre. » Dans son esprit, ça signifiait simplement « quand j'ai eu terminé mes études secondaires, et bon, il était allé un petit peu plus loin, parce qu'on sait maintenant qu'il avait vraiment passé son doctorat en droit, même si c'était là où il l'a étudié, un doctorat un peu de complaisance. Enfin bon, disons qu'il avait terminé ses études. Mais c'est amusant, que l'un des penseurs clés de la modernité, justement, soit tombé sur cette idée de l'émancipation. Parce que c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas ? Ça veut dire quitter le contrôle de ses tuteurs, que ce soit des enseignants ou des parents ou, je ne sais pas, le notaire qui vous donne au goutte à goutte le revenu auquel vous avez droit puisque vous êtes sous curatelle. Bon. Cette image vient de saint Paul, comme d'ailleurs une bonne partie des métaphores clés de la modernité, hein, le passage à l'âge adulte, le fait d'être constamment tendu vers l'avant, ça c'est dans l'épître aux Philippiens, si je me souviens bien, la fameuse ep ectasis, hein, qui a tellement fait réfléchir un père de l'Église comme Grégoire de Nice au IVe siècle. Eh bien, tous ces termes étaient placés sous une clé, si je puis dire, enfin, au sens musical du terme, sous une clé qui leur donnait un sens que j'estime, moi, positif, enfin, qui pouvait mener à autre chose qu'à son autodestruction. Et lorsqu'ils se sont eux-mêmes émancipés, sans jouer sur les mots, lorsque l'émancipation s'est émancipée du modèle initial, eh bien, effectivement, elle se met à tourner fou, comme la roue qui tourne fou, dont j'ai parlé au début de cet entretien. Et on ne peut que réclamer d'autres émancipations, au besoin, en imaginant des chaînes, enfin, en se forgeant des chaînes imaginaires, enfin, en trouvant de la domination, comme on dit maintenant, ou de la répression, comme on disait quand j'étais plus jeune, un petit peu partout. Y compris bon, bah, dans ce qui nous permet de vivre, enfin, dans les règles élémentaires de la coexistence pacifique, de préférence pacifique, des êtres humains sur cette terre, les règles élémentaires qui permettent la poursuite de l'aventure humaine. Et ça, bon, on peut considérer que c'est aussi de la domination et qu'il faut s'en débarrasser.
C'est une drogue dure, l'émancipation. Il en faut toujours plus.
J'aime bien votre image. Oui, elle est d'abord parce qu'elle est rigolote, si je puis employer un adjectif un petit peu vulgaire. Oui, oui, c'est une drogue dure. Oui, il faut toujours une picouse plus intense que la précédente. Alors bon, où est-ce que ça va mener ? Je reviens un petit peu au début de votre question. Vous savez, quand on pratique un peu l'histoire des idées, ce qui est aussi une chose que j'aime bien faire, l'histoire des idées qui se distingue de l'histoire de la philosophie, parce que l'histoire de la philosophie, c'est une sorte d'histoire de la vérité. L'histoire des idées, c'est aussi une histoire de la bêtise. C'est aussi l'histoire de tout ce que les gens se sont imaginé. Alors, c'est pourquoi il faut chercher, non seulement chez les philosophes, mais chez les poètes, les romanciers, les artistes, enfin bon, quiconque a laissé une trace écrite ou peinte ou composée de ce qu'il ou elle pensait. Ben, quand on se livre à ce genre de sport, ben, on s'aperçoit que les idées ont un malin plaisir à se retourner, à partir d'un côté, puis un moment à faire un demi-tour sur les chapeaux de roue et à exprimer le contraire de ce qu'elle voulait dire initialement. Alors, l'exemple que j'ai donné, là, celui du rapport au corps, enfin, du culte du corps qui se transforme finalement assez vite en une sorte de haine du corps tel qu'il est au profit d'un corps idéal. C'est un petit peu aussi, entre autres, ce qu'il y a derrière le rêve ou le cauchemar transhumaniste. Hein, nous faire un corps qui ne serait plus celui du délit.
Ou de sortie du corps. Ou de sortie du corps. Dans le transhumanisme, il n'y a pas que la création d'un être éternel dont le corps serait renouvelé en permanence. Mmh. Il y a aussi l'idée que la vie pourrait, et l'intelligence humaine pourrait s'émanciper du corps.
De s'émanciper du corps que l'on appelle pour les besoins de la cause biologique, par exemple pour se loger dans un ordinateur.
C'est ça.
Bon, mais ce sera aussi un corps. Hein, mais un corps, évidemment, dont on pourrait changer les pièces beaucoup plus facilement que ça n'est le cas pour ce corps que nous habitons actuellement. Un corps fait de matériaux beaucoup plus solides que cette espèce de viande facilement putride qui est la nôtre. Bon, non, c'est quand même le rêve d'un corps parfait. Alors, c'est pas le corps du bodybuilder ou le corps du top modèle, mais ça serait un corps qui serait capable d'une sorte d'éternité. Alors, la question de savoir si c'est faisable, là, je la laisse de côté, hein, c'est pas du tout mon domaine. Mais, je m'interroge avec un peu d'amusement et puis un petit peu d'effroi aussi sur ce qu'il y a derrière ces choses-là.
Oui, parce que vous avez l'air de penser que l'humanité pourrait en venir à disparaître ou souhaiter sa propre disparition et l'accomplir par une sorte de fatigue morale et... d'ignorance des fins dernières, en quelque sorte.
Oui, ce que je dis, si vous voulez, c'est que nous n'avons plus en ce moment, et depuis pas mal de temps, hein, je ne parle pas de l'actualité immédiate, nous avons du mal à répondre à la question que j'appelle, c'est le titre d'un autre de mes bouquins d'ailleurs, mais... le titre ne figure que dans les traductions. Parce que l'éditeur français n'a pas voulu de ce titre. Le titre français, maintenant, c'est « Le propre de l'homme », mais j'avais pensé l'appeler « La légitimité de l'humain ». Nous avons du mal à répondre à la question de savoir dans quelle mesure notre existence sur Terre est légitime. Alors quand je dis notre existence, je ne parle pas de celle de ma petite personne ou même de la vôtre, mais parce que de toute façon nous y sommes déjà, donc la cause est entendue, hein, nous sommes embarqués, évidemment nous pouvons sauter par-dessus bord si nous en avons envie, mais enfin je parle de l'existence de l'espèce humaine comme telle, de la communauté humaine sur cette planète. Et bien, nous avons du mal à dire pourquoi... Au juste, il faudrait vraiment que ça continue. Vous avez fait allusion tout à l'heure à des gens qui disent « Bon, ben, nous sommes finalement une tentative ratée de la nature ». C'est une expression que j'ai trouvée chez quelques auteurs du 19e siècle et du 20e. Nous sommes une tentative ratée, bon, donc on ferme boutique. On ferme boutique. Ça serait mieux pour les petites fleurs et les petits oiseaux, et puis bon, pour tous ces merveilleux animaux qui pourront apparaître dès que nous aurons tiré notre révérence. Bon, alors il y a ça. Et pour répondre à cette question, je vois mal comment on peut s'en tirer sans le recours à la transcendance. Enfin, appelons-le par son petit nom, Dieu. Hein. Je vois mal comment on peut dire « il est bon que nous soyons là » et pas seulement « bon, c'est comme ça, on est là, on se débrouille bon, », mais « il est bon que nous soyons là, donc il faut qu'on continue ». Bien entendu qu'on essaye de faire en sorte que cette continuation se passe de la manière la plus pacifique possible, ça c'est bien clair. Même s'il ne restait plus que deux êtres humains sur la Terre, le problème se poserait. Donc ce n'est pas du tout cette question-là qui me tarabuste pour l'instant. Mais c'est, bon, comment faire pour trouver un point d'ancrage, si je puis dire, permettant d'affirmer qu'il est bon qu'il existe sur Terre une espèce humaine. Et là, bon, je pose la question.
Il vaut mieux trouver des réponses, car une fois qu'on a posé ce type de questions, il faut absolument trouver la réponse. Soit on ne se la pose pas et on se laisse aller à nos instincts de survie, mais dès lors qu'on la pose, la réponse est obligatoire, donc vous en avez forcément une à nous proposer.
Eh bien oui, je...
Ne pas nous mettre devant ce gouffre métaphysique et nous laisser ensuite sur le bord, c'est trop dangereux.
Ah, écoutez, n'est-ce pas, nous sommes au bord du gouffre, il faut faire un grand pas en avant. Comme disait je ne sais quel politicien dont on s'est beaucoup moqué, à juste titre. Non, j'ai effectivement, par devers moi, un atout en haut de ma manche, c'est Dieu, bien entendu. Mais il est intéressant de voir que ce que je ne prêche rien, hein, ce n'est pas mon métier, je ne suis que philosophe, mais simplement je dis, je pose l'hypothèse, si on doit à long terme se passer de cette référence, alors nous n'avons aucune raison, nous, espèces humaines, n'avons aucune raison de continuer à exister. Donc ce n'est pas du tout un propos, édifiant ou prêchant, c'est un propos que je n'hésiterai pas, non sans une pointe d'ironie, à qualifier de darwinien. Si l'espèce humaine remplit certaines conditions, alors elle survivra. Si elle ne les remplit pas, alors elle disparaîtra à plus ou moins long terme. Bon, savoir s'il est bon qu'elle continue à exister ou pas, bon, là, personnellement, j'ai plutôt envie d'avoir la suite du feuilleton, si vous voulez. Je trouve que l'histoire humaine est intéressante, je voudrais qu'elle continue, de préférence qu'il y ait non pas une « happy end », mais une happy continuation, bon, que ça se développe mieux que jusqu'à présent. Mais la question est posée. Donc c'est une simple hypothèse, si vous voulez. Si on doit continuer à survivre, alors il faut telle ou telle chose. Et c'est vraiment une question de sélection naturelle, ou presque de sélection surnaturelle, si j'ose dire.
Donc c'est la foi en Dieu comme avantage comparatif. Alors,
c'est avantage comparatif. Alors bien entendu, ça n'est pas du tout une preuve de Dieu. C'est pas parce que il faut la foi en Dieu pour que l'humanité continue à exister que ça implique que Dieu existe. Non, c'est vraiment une hypothèse. Hein. C'est un « si, alors hein, ». Si telle chose va continuer, alors. Mais le premier élément de la question, à savoir « faut-il vraiment que l'humanité continue à exister ?», je n'en sais rien. Ceux qui ont envie qu'elle arrête, eh bien, le font pour leur propre compte. Voilà, je vous en prie. Comme disait Sénèque quelque part, la porte de sortie est partout. Allez-y.
C'est vrai pour les individus, bien entendu.
C'est vrai pour les individus,
mais
oui.
C'est peut-être aussi vrai pour les civilisations, parce que finalement, ce type de questions, de gouffres, de doutes quant à la nécessité que l'homme se poursuive, finalement, ce sont des divagations un peu occidentales, non ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. L'ennui étant qu'il est difficile de trouver maintenant des cultures qui n'aient pas été infectées, j'emploie à dessein un terme péjoratif, par le virus, excusez-moi, le virus occidental, le virus de l'industrialisation, le virus de la rationalisation, le virus de ce que l'on appelle maintenant sécularisation, tout cela est en marche quand même. En dépit des apparences, ou pas en dépit des apparences, un petit peu partout dans le monde. Ce qui donne d'ailleurs à l'Occident, non pas du tout une prétention à être meilleur que les autres, mais une responsabilité plus grande. Parce que si les solutions qui ont été choisies par la culture occidentale devaient mener à la disparition de l'humanité, et si les autres cultures emboîtent le pas à la civilisation occidentale en choisissant les mêmes solutions, alors je serai dans mes petits souliers en ce qui concerne l'avenir de l'espèce humaine. Hein ?
Du coup, on a l'impression que votre livre est d'une tonalité extrêmement sombre et pessimiste, et ce n'est pas du tout le cas, car à plusieurs reprises, vous nous expliquez que ce ne sera pas, et qu'en réalité, ce poison moderne, pour rester dans la métaphore médicale, ne perdurera pas, et que les anticorps seront trouvés.
Ah, mais je ne dis pas ça du tout. Vous avez fait de mon livre une lecture plus optimiste que je ne l'ai faite moi-même. Je n'en sais rien. Un philosophe n'est pas un voyant, enfin, qui pourrait dire ce qui va se passer. Alors, vous voulez m'objecter quelque chose ? Allez-y.
Oui, je me permets de vous citer.
Ben, bien sûr, ben, c'est de très bonnes guerres.
Dans l'introduction, oui, et puis parce que je voudrais qu'on termine quand même sur une note positive, et puis offrir des pistes de rédemption, en quelque sorte,
c'est le mot.
À l'auditeur. De plus, je soutiens que nous n'aurons pas à décider si nous souhaitons ou pas un retour à une certaine façon de penser médiévale.
Oui.
Ce n'est pas une question de goût ou de choix, mais une nécessité. D'une façon ou d'une autre, notre culture devra faire un pas en arrière en direction d'un certain Moyen-Âge, etc., etc. C'est-à-dire que
oui.
Il semble que mécaniquement, nous soyons appelés à trouver les anticorps dans cet héritage formidable que nous avons reçu, qui est désormais peuplé de vertus devenues folles. Mais après tout, même devenues folles, les vertus perdurent. Il suffit probablement de les réapproprier différemment.
Le ciel vous entende, mais toutes les phrases que vous avez citées sont suspendues, si je puis dire, à un « si ». Si l'humanité doit continuer à exister, alors il faudra faire un pas en arrière vers, disons, la mentalité ou la vision du monde, vers une mentalité ou une vision du monde médiévale. Alors, je souhaite évidemment que ce ne soit pas un retour au Moyen-Âge tel que le caricature l'époque moderne. À savoir la féodalité, le servage, quelle est l'expression, taillable et corvéable à merci, le supplice de la goutte d'eau dont j'ai entendu parler quand j'étais à l'école communale, je devais avoir 6-7 ans, pensez si ça impressionne. Bon, alors retour à ce Moyen-Âge-là, bon, non merci, enfin sans façon, hein, bon, en revanche... si Moyen-Âge veut dire obscurantisme, comme on l'a dit à partir du 18e ou du 19e siècle, bon, bah, évidemment non, même simplement en tant que philosophe ou simplement en tant que citoyen de base et qui voit ce qu'il y a de bon dans les Lumières, pas tellement envie de retourner à ça. En revanche, on doit continuer donc le feuilleton, si on doit continuer l'aventure humaine, eh bien je crois qu'il faudra reprendre certains éléments tout à fait de base qui se sont fait jour au Moyen-Âge, et ce sont des éléments qui se trouvent avant tout chez les philosophes, chez les penseurs, pas je ne sais pas quel tyranno local demandant à ses serfs de battre les bords de l'étang pour faire taire les grenouilles qui l'empêcheraient de dormir. C'est une légende très amusante qui s'est trouvée dans plusieurs livres d'histoire de la Troisième République, à l'intention des jeunes générations.
Merci beaucoup. Si vous vouliez bien nous donner une idée médiévale centrale, celle qui entraîne toutes les autres.
Eh bien, écoutez, il se trouve que je suis en train d'écrire un petit livre, sur la notion d'humilité, sur la vertu d'humilité. Bon, alors vous allez dire, comment vous pouvez vous permettre, vous qui ne la possédez absolument pas, d'écrire sur cette vertu? On peut quand même rêver de ce que ça serait que d'être humble, de se savoir dépendant, d'accepter cette dépendance comme une chance qui nous est donnée, d'accepter d'avoir à se colter, se confronter avec la réalité telle qu'elle est et pas comme on la rêve. Et puis, conformément à l'étymologie, très simple d'ailleurs, du mot humilis, hein, c'est ce qui est proche de l'humus, hein, ça vient de cette langue de maraîcher qu'était le latin. Humilis, c'est la plante qui reste proche du sol, dont elle peut puiser tous les sucs nourriciers. Alors, je crois que c'est ça, l'humilité. Eh bien, ce serait peut-être l'attitude fondamentale du Moyen-Âge. Il y a plusieurs auteurs médiévaux, et pas des moindres, qui ont considéré que c'était la vertu des vertus. La vertu qui permet que toutes les autres vertus puissent se déployer librement et produire leurs fruits. Voilà.
L'humilité comme humus et comme enracinement. Merci beaucoup Rémi Brague. Je rappelle à nos auditeurs les références du livre, car nous n'avons fait qu'effleurer le sujet ou l'ouvrir. Des vérités devenues folles aux éditions Salvator par Rémi Brague. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Thank you.